Bienvenue sur Secrets de Management, le podcast centré sur des méthodes managériales humaines, simples et pragmatiques. Je suis Nandi Dossou, j'accompagne les managers et entreprises de la tech à conduire en toute confiance leur équipe d'une façon bienveillante et efficace, de telle sorte à surpasser les objectifs attendus. Précieux manager, si je te demande quelles sont les compétences managériales sur lesquelles tu devrais capitaliser et celles sur lesquelles tu devrais t'améliorer, saurais-tu répondre ? Si cette question t'intrigue, rendez-vous sur bit.ly/nandi-coaching et nous pourrons avoir ensemble un échange qui sera généreux, pertinent. À très vite sur l'épisode. Bienvenue sur l'épisode 21 de Secrets de Management. Comment allez-vous ? Eh bien, si vous me rejoignez pour la première fois, je vous souhaite encore une fois une excellente bienvenue. J'espère que vous allez devenir de fidèles auditeurs si, bien entendu, chaque épisode vous apprend quelque chose de nouveau et en tout cas apporte de la valeur à votre management. Si vous n'êtes pas encore abonné à Secrets de Management, eh bien, je vous invite à le faire. Restons en contact. Dans le cadre de cet épisode aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème. Qui se rappelle du thème ? Qui se rappelle du thème du mois de mai ? Eh bien, c'est manager selon la richesse de sa personnalité. Notre personnalité est tellement riche, elle est tellement belle, quel que soit ce qu'on a pu expérimenter dans notre vie professionnelle. Souvent, c'est juste prendre le temps de mieux la connaître afin de pouvoir prendre du recul et bien entendu gérer les situations avec brio. Et comme j'expliquais dans le cadre de l'épisode, je ne sais plus, peut-être l'épisode 18, lorsque j'ai introduit le thème, je disais que manager selon la richesse de sa personnalité s'effectuait en trois étapes. La première, c'était déjà mieux appréhender sa personnalité. Ensuite, mieux appréhender la personnalité de ses interlocuteurs pour pouvoir s'adapter. Et la troisième étape, c'était savoir prendre en compte la situation pour agir avec efficacité. Eh bien, le prisme par lequel je voudrais parler de prendre en compte la situation, c'est le prisme de nos motivations. Il existe beaucoup de questionnaires de personnalité. Vous en avez déjà peut-être fait du MBTI. Peut-être que vous êtes déjà allé sur 16 personnalités. Vous avez peut-être déjà fait du ProcessCom. Donc, tous ces questionnaires de personnalité nous aident effectivement à mieux l'appréhender. Cependant, l'une des forces du questionnaire Arc-en-Ciel DISC, c'est que ce questionnaire va un peu plus loin dans l'analyse des résultats en identifiant nos motivations. Qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une certaine façon ? Quel est un peu le moteur qui va susciter nos comportements observables ? Il y a des choses qui nous font réagir et ces choses qui nous font réagir, lorsque nous en prenons conscience, cela nous aide lorsque certaines situations nous poussent. Appuie sur l'interrupteur, cela nous aide à faire un peu plus attention, d'accord ? Le but n'est pas d'évoluer dans un monde complètement pasteurisé, acceptisé, mais de savoir prendre du recul pour agir avec efficacité. Eh bien, donc pour cela, on va démarrer avec les motivations. Si vous avez un jour l'opportunité de réaliser un profil Arc-en-Ciel DISC, que vous allez découvrir de toute façon dans le cadre de votre débrief, quelles sont vos motivations ? Alors, on en a 6 de motivations et je vais, pour chaque motivation, donner un peu la caractéristique générale de cette motivation, quelles sont les situations qui créent du stress, justement, qu'est-ce que ces excès de motivation peuvent créer dans notre vie et puis, du coup, quelle est la force de cette motivation ? Vous êtes prêts ? Eh bien, on y va, let's go ! Première motivation dont je voulais énoncer, c'est la motivation cognitive. Quoi, Nandi ? Cognitive. Eh bien, c'est une motivation qui cherche à découvrir et à comprendre le pourquoi du comment. Si vous aimez une explication rationnelle, un process, pourquoi on arrive à ce résultat-là. Vous allez avoir une motivation cognitive. Vous êtes peut-être le type de personne qui aimait beaucoup lire, par exemple, qui aimait beaucoup comprendre les choses, aller dans le détail, comprendre l'explication, pouvoir disséquer pourquoi on arrive à un certain résultat. C'est une motivation cognitive. Vous faites fonctionner votre intellect et c'est super. La caractéristique d'une personne qui a une motivation cognitive, hein, c'est qu'elle aime résoudre les problèmes, elle aime investiguer. Cependant, si vous vous retrouvez dans une situation où c'est du subjectif, dans une situation où c'est de l'irrationnel, de l'affectif, de l'émotif, ça peut créer du stress chez vous. Parce que justement, puisque vous aimez le rationnel, lorsque vous faites face à des situations très affectives, eh bien, vous pouvez avoir du mal à les gérer. Lorsque vous avez un excès de motivation cognitive, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous négligez les questions affectives. Et je vais juste vous raconter une petite histoire. J'accompagnais une directrice du consulting, justement dans le cadre de la découverte de sa personnalité, et ça lui a permis en fait de réaliser pourquoi elle s'était retrouvée en difficulté face à une situation où l'émotivité des personnes était tellement forte qu'elle n'arrivait pas à gérer. Elle était directrice, elle gérait des managers, et il se trouve que elle ne s'en était pas du tout rendue compte parce qu'elle dirigeait des managers sur toute l'Europe et dans les Émirats aussi. Donc, elle ne s'était pas rendue compte qu'il y avait une manager qui avait un management toxique envers ses équipes. Et donc, elle ne s'était pas rendue compte de cela pendant un bon moment. Elle était directrice. Et le jour où elle a réalisé le problème, je ne sais plus, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé, eh bien, elle a voulu parler à chaque manager pour pouvoir effectivement un peu voir c'était quoi les situations et qu'est-ce qui s'était passé et comment ça avait pu passer à la trappe. Et elle me dit, mais moi, les gens arrivaient dans mon bureau, les personnes étaient en pleurs, les personnes émotionnellement s'étaient chargées et elle n'arrivait pas à le faire. Elle n'a pas réussi, elle a même dédié une personne pour gérer cela. Alors c'est bien, en toute humilité, de se dire « j'arrive pas à gérer, je dédie quelque chose », mais la découverte de sa personnalité, en fait, lui a permis de se rendre compte que cet excès faisait même qu'elle négligeait les situations affectives, elle négligeait les questions affectives, elle ne voulait même pas entrer là-dedans. Sauf que le management, ça prend en compte, bien sûr, du rationnel, mais de l'affectif, parce qu'on gère des êtres humains. Donc, voilà pour la petite histoire et voilà donc lorsqu'on est face à ce type de situation, quand on en a conscience, on peut prendre du recul et se dire c'est juste un moment, il faut que j'apprenne à créer l'espace qui soit à la fois sain et sécurisé pour cette personne afin qu'elle s'exprime même dans son affectif. Quand on a une motivation cognitive, on a une force. Hein. Notre force, c'est d'être structuré rationnellement. Notre force, c'est de savoir se concentrer sur les faits, ne pas se laisser distraire et vraiment d'aller au bout de ce qu'on est en train de faire. La motivation esthétique, si c'est vous, vous êtes une personne qui expérimentez la sensibilité de la beauté intérieure ou extérieure. En d'autres termes, quand vous avez une motivation esthétique, vous aimez tout ce qui est créativité, vous aimez tout ce qui est beauté. J'aime souvent dire, vous êtes le type de personne qui dira par exemple « Oh, elle, c'est une belle personne ». Vous rajoutez l'adjectif « belle personne » et « belle personne » ne veut pas forcément dire que cette personne répond à certains standards de beauté physique. « Belle personne » va reprendre ce que vous pouvez ressentir de la personne et pour vous, ce qui symbolise le beau. Eh bien, votre caractéristique, c'est que vous savez ressentir le caractère unique des gens. Vous savez ressentir le subjectif, vous savez ressentir l'intuition d'une situation. Et vous n'arrivez pas, par exemple, à mettre un mot là-dessus. C'est une conviction intérieure qui vient d'un ressenti. Donc ça, c'est une motivation esthétique. Alors, bien entendu, si vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas d'harmonie, dans une situation où on n'est que concentré sur une vérité objective qui est pure et dure, automatiquement, ça va générer du stress chez vous. Je vous donne un exemple, vous êtes peut-être commercial, vous gérez une équipe de commerciaux, puisque je m'adresse à des managers, mais si vous n'êtes pas manager, que vous m'écoutez, c'est super. Et puis, en face de vous, votre manager est en train de faire le point sur vos résultats, et il ne prend pas du tout en compte la situation, il regarde les chiffres, il vous dit, écoute, c'est pas atteint, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ton équipe fait? Ça ne marche pas du tout. Eh bien, vous, ça va générer du stress parce que vous allez vous dire, mais attends, mais tu vois pas que les équipes sont pas bien en ce moment? Tu vois pas que les personnes sont découragées? Tu vois pas que... Et vous allez vraiment toujours être dans cette sensibilité de l'autre. Eh bien, le problème, c'est que si la motivation esthétique est en excès, vous pouvez devenir une personne qui est complètement en conflit avec l'objectivité et la réalité. Ça vous est déjà arrivé de voir une personne vous dire « Mais regarde les choses en face! Regarde les choses en face !» Et la personne est là « Ah non, pas du tout !» Voilà, c'est qu'en excès, vous refusez, vous pouvez être dans le déni de la réalité parce que vous vous appuyez vraiment sur cette sensibilité intérieure. Bien entendu, vous avez une force. Votre force, c'est votre sensibilité. Votre force, c'est savoir vous concentrer sur les autres, en fait. C'est une force. Quand on a cette motivation, il faut faire attention de se dire « Ok, là, je suis vachement dans l'intuition. Il me faut aller rechercher quand même des faits. Il me faut aller rechercher d'autres choses. » Vous allez voir qu'il y a beaucoup de motivation et on a besoin un peu de chacune d'entre elles, même si on aura des dominantes de motivation, un peu comme on a des dominantes de nos comportements observables. Mais ce sont ces motivations qui vont agir sur notre façon d'agir avec les autres. Qu'est-ce qui va faire que je vais réagir peut-être violemment dans une réunion? Peut-être parce que tout d'un coup, ma motivation pour cette subjectivité, cette intuition, de voir qu'elle n'est pas prise en compte et que j'ai quelqu'un qui est juste en train de me parler de faits sans prendre en compte une situation que j'estime être réelle. Et tout d'un coup, j'agis d'une façon qui peut ne peut-être pas être la bonne. Donc, agir avec efficacité, encore une fois, c'est je prends en compte cette situation qui crée peut-être un facteur de stress et j'ai du recul et j'agis de la meilleure façon qu'il soit. Alors, si nous avons une motivation utilitaire, cela veut dire qu'on va rechercher un retour sur investissement en toute chose. On va être héroïste, quoi. En gros, je fais rien pour rien. La caractéristique d'une personne qui a une motivation utilitaire, c'est qu'elle a un sens pratique. Elle tire le maximum des ressources de toute situation. J'ai cela à faire, je comprends pourquoi, voilà ce que j'en gagne, voici le bénéfice. Eh bien, quand on a cette motivation et qu'on se retrouve dans une situation où on ne sait pas pourquoi on fait les choses, ou alors on me demande de faire des choses pour faire des choses, ça génère du stress. Je ne vois pas en quoi faire cette chose va changer la vie de mon équipe, changer la vie de l'entreprise, changer mon bien-être. Et donc, ça va générer du stress parce que l'inutilité est un facteur de stress pour une personne qui a une motivation héroïste. Bien entendu, si cette motivation est en excès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit tout en termes de bénéfices. On voit tout en termes d'intérêt. Je vais aider cette personne-là parce que derrière, je peux avoir une promotion. Je vais faire ça parce que, ah oui, ça va me donner de la visibilité. Il n'y a aucun mal à désirer de la promotion, il n'y a aucun mal à rechercher de la visibilité, mais lorsque cela est en excès, on ne sait plus faire les choses juste parce que ça va aider quelqu'un et pas forcément parce que je vais en tirer quelque chose. Eh bien, les forces d'une personne avec une motivation utilitaire, c'est le pragmatisme. C'est d'être une personne qui se concentre sur le retour sur investissement. Et c'est super parce que cela veut dire qu'on ne perd pas son temps en tant que manager. Lorsque vous devez fixer des objectifs, par exemple, vous allez regarder qu'est-ce que cela apporte. Vous n'allez pas juste faire des choses à votre équipe juste parce qu'il faut le faire. Vous saurez vous concentrer sur l'essentiel, d'accord, sur les 20% de choses qui produisent 80% des résultats. Voilà, je viens de parler de la méthode Pareto, si ça vous parle. La motivation altruiste en numéro 4. Si vous êtes une personne avec une motivation altruiste, cela veut dire que vous vous investissez pour aider les autres. En d'autres termes, vous êtes une personne désintéressée, généreuse, avec un sens de justice sociale. Lorsque je faisais un débrief de personnalité à une ancienne directrice marketing, c'était marrant parce qu'elle a été choquée de voir qu'elle n'avait pas l'altruisme en dominante. Et pour elle, ça a été vraiment un gros choc qu'il a fallu creuser parce qu'elle n'arrivait pas à se dire qu'elle ne pouvait pas être altruiste. C'est marrant parce que souvent, on veut vraiment rentrer dans un certain moule. Et mon rôle était d'expliquer que ne pas avoir l'altruisme en dominante ne fait pas de nous une personne égoïste. Parce que chacun d'entre nous, on va avoir ses motivations. C'est juste que, bien sûr, par ce questionnaire, on a révélé d'autres choses. Mais ça n'enlève pas en nous de l'altruisme. Eh bien, lorsqu'on va se retrouver dans une situation où les gens ne tiennent pas compte des autres, on prend des décisions en ne regardant pas du tout l'impact sur les autres. Facteur de stress déclenché. Et quand on a l'altruisme, la motivation altruiste en excès, eh bien, malheureusement, on peut commencer à devenir soi-même nuisible pour soi-même, s'oublier complètement. À force de s'investir pour les autres, on va s'oublier. On ne va pas mettre les frontières pour pouvoir aussi prendre soin de nous, pour pouvoir aussi valoriser ce qu'on a envie. Je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais une amie, à chaque fois quand je lui demandais quelque chose ou que je lui proposais quelque chose, elle répondait toujours « Mais toi tu veux quoi? Je fais comme tu veux. » Et un jour je lui ai dit « Mais tu veux rien toi? Tu dis toujours « Non mais fais ce que tu veux. » Parce que sans se rendre compte, à force de vouloir s'investir pour les autres, elle ne cherchait même plus à tenir compte de qui elle était, de ce qu'elle avait envie, de ce qu'elle pouvait faire. Eh bien, quand on a une motivation altruiste, qu'est-ce qu'on a comme force? Eh bien, on sait tirer le meilleur parti du potentiel des gens. C'est magnifique. On est au service des autres. Motivation individuelle. La motivation individuelle veut dire en fait qu'on veut avoir le pouvoir sur soi et sur les autres. On va rechercher le pouvoir, d'accord? On va rechercher d'être en position de pouvoir diriger sa propre vie et diriger les autres. C'est vraiment une motivation qui nous emmène à assumer notre individualité. Voilà, on sait assumer qui on est, on aime qui on est, on recherche à faire avancer qui on est. Si on se retrouve dans une position où on a l'impression qu'on n'est pas pris en compte et que c'est le collectif, ça va générer du stress. Les personnes avec une motivation individuelle ont beaucoup de mal à ne pas assumer leur individualité, ont beaucoup de mal à être dans du collectif, dans un esprit d'équipe. Parce que ce qui compte, c'est elles, comment elles peuvent avancer, comment elles peuvent atteindre leur objectif. Donc si vous vous retrouvez avec cette motivation-là en tant que manager, ça ne veut pas dire qu'il faut vous flageller. C'est juste que c'est un travail qu'il va falloir faire pour que vous puissiez valoriser le collectif. Eh bien, l'excès de motivation individuelle, qu'est-ce que ça fait? C'est que on recherche qu'à avancer personnellement. Les autres, on n'en a rien à cirer. Tout ce qui compte, c'est nous. Comment on tire profit? Et ça peut arriver, par exemple, le meilleur commercial qui, tout d'un coup, devient le manager d'une équipe. Ça peut arriver. Et quand quelqu'un devient manager juste par rapport à ses résultats et pas forcément par rapport à d'autres compétences qui justifieraient son rôle, on peut se retrouver donc soit en tant que manager à être en concurrence avec ses équipes. On peut se retrouver à vouloir faire avancer les choses à tout prix en ne tenant pas compte de cette équipe-là, etc. Par contre, ne pensez pas que la motivation individuelle est négative. Je vais donner un autre exemple. Dans votre entreprise, il n'y a pas d'augmentation. On décide qu'il n'y a pas d'augmentation. Si vous avez une motivation individuelle, vous allez aller vous battre en fait pour vous. Vous allez pouvoir dire, écoutez, je sais que la décision a été faite pour le collectif, mais moi, j'estime que, basé sur X, Y, Z, je mérite. Vous allez vous battre pour vous. Et donc, c'est important de savoir prendre en compte son individualité. On a de la valeur. Vous avez de la valeur. Donc, ce n'est pas que la motivation individuelle est terrible. C'est juste un peu comme chaque motivation que j'ai énoncée. C'est juste, en fait, à chaque fois, prendre du recul et de se dire, eh bien, en excès, je peux me retrouver dans cette situation. Et face à une situation aussi qui ne prend pas en compte ma motivation, je peux me retrouver en stress, voire à agir d'une façon qui ne serait pas efficace. Donc, je vais prendre du recul parce que je sais maintenant pourquoi j'ai envie d'agir d'une certaine façon. Et puis, pour finir, la motivation traditionnelle, c'est une motivation qui agit en fonction d'un fort système de valeurs morales. C'est une motivation qui est basée sur des principes, c'est-à-dire en fait qu'on vient de voir 5 motivations qui sont basées en fait sur nous, ce qu'on estime. Par contre, la motivation traditionnelle, c'est une motivation qui est extérieure à nous. le principe, c'est ça. Mes valeurs, c'est ça. Mes principes sont ainsi. Donc, même si je peux en payer le prix, c'est pas grave. Je ne permettrai pas que ces principes soient violés. Et donc, les caractéristiques, c'est que bien, j'ai mes propres valeurs et je peux m'engager jusqu'à la mort pour que mes valeurs soient respectées. Du coup, lorsque je me retrouve dans une situation où des personnes vont s'opposer à mes causes, à mes croyances, à mes principes, cela va déclencher du stress chez moi. Et si j'ai une motivation traditionnelle en excès, je peux devenir assez intolérante et même me sacrifier. Par exemple, la patrie est une valeur traditionnelle. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Tandis que pour d'autres, ils vont se dire « mais non ». Moi, je veux vivre ma vie, donc si dans mon pays, les choses ne sont pas en train de se faire comme il faut, eh bien, je vais chercher, moi, à avoir mon propre confort, à partir, à faire autre chose. Tandis que pour d'autres, la patrie, c'est une valeur. Pour certaines personnes, la famille, c'est une valeur. Pour certaines personnes, le travail est une valeur. Il faut travailler dur. Voilà, même si c'est compliqué, même si ça a un impact négatif, c'est pas grave, il faut travailler dur, il faut y aller. Il y a une personne que j'accompagnais qui avait une forte motivation traditionnelle. Et puis, quand on explorait lors du débrief, elle a réalisé qu'en gestion de conflits, c'était une compétence qu'il fallait travailler. Et donc, je lui posais des questions face à une situation et elle m'a dit « Waouh, je me rends compte que moi, une de mes valeurs, c'est le respect. Lorsqu'il y a des situations où il n'y a pas de respect, c'est l'une de mes valeurs, je ne peux pas laisser passer cela. » Et donc, toutes les situations conflictuelles qui ont pu avoir lieu dans ses équipes ou entre son équipe et d'autres personnes qui généraient du manque de respect, même si elle détestait les conflits, elle agissait. Donc on voit qu'une motivation permet de créer aussi une réaction qui est bien, je vais défendre en fait ma valeur et même si je n'ai pas toutes les compétences, en tout cas je vais aller au front et défendre cela. Bien entendu, comme on a vu, hein, en excès, bien, on peut se sacrifier. On a vu des gens mourir inutilement pour un principe. Les forces d'une motivation traditionnelle, c'est accorder de l'importance au sens et à la morale, quel que soit son domaine. Et quand je parle de sens, de morale, il y a des personnes, par exemple, dont le principe, c'est l'anarchie. Eh bien, elles vont vivre selon l'anarchie qui est leur valeur morale. D'accord ? Donc voilà un peu pour les différentes motivations qui ressortent de l'analyse d'un profil arc-en-ciel disque et qui vont expliquer certaines réactions dans le détail. Dans le détail, on comprend comment ces motivations agissent sur le comportement extérieur, sur une dominante qui serait jaune, rouge, bleu, verte, vous l'aurez compris. Donc j'espère que cet épisode qui est un peu long quand même. J'espère vraiment que cet épisode vous a donné un éclairage. Peut-être que vous avez identifié plusieurs motivations chez vous et que cela va vous aider à prendre du recul pour pouvoir agir avec efficacité. Si vous n'êtes pas encore abonné sur l'épisode, allez-y. Si vous voulez avoir accès aux ressources que je mets à disposition, bit.ly/tips-manager et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que vous avez pu tirer de cet épisode une idée, une stratégie ou tout simplement une joie particulière qui va faire la différence pour vous et vos équipes. Si vous aspirez à un management centré sur l'humain qui crée du résultat, donne du sens, produit de l'épanouissement et vous aide à atteindre vos objectifs de carrière, j'ai une bonne nouvelle. Retrouvez-moi sur bit.ly/nandi-coaching et je vous ferai bénéficier d'une session offerte sans engagement. Je vous dis à la semaine prochaine.